Donc, dans le modèle... Donc,
Oui, pardon. Et il y a les recettes culinaires.
Oui.
Et puis, il y en a qui peuvent se développer ou pas selon des lois propres au flux, à la fluidité, si j'ai bien compris.
Mais c'est ça, il y a des... Oui, effectivement.
N'est-ce pas?
Oui.
Et alors, qu'est-ce qui détermine ces modifications des flux?
Oui. Donc, c'est... L'écoulement ou le mouvement des cellules est lié à l'apparition de différences de concentration. Par exemple, si on prend par exemple un fluide, l'écoulement du fluide est lié au fait qu'à un certain moment, il y a une concentration très grande de fluide d'un côté et moindre de l'autre. Il y a un gradient de concentration et le fluide se déplace. Alors pourquoi y a-t-il à un certain moment un gradient de concentration? Mais ça peut être au début du développement de l'embryon, certains précurseurs, disons, des mécanismes qui produisent les protéines se trouvent plus dans une région que d'autres, vont créer une sorte de gradient de concentration et le mouvement va s'entamer. Et donc, va commencer. Et donc, on peut aujourd'hui préciser pourquoi ce mouvement s'enclenche. Et puis après, on précise évidemment les caractéristiques physiques du mouvement. Mais je peux, si vous voulez, vous donner des références précises qui permettent, par exemple, d'expliquer pourquoi, dans une certaine région, le développement de l'embryogenèse se situe, enfin, ou commence, où on a ce gradient. Donc ça, je peux vous le donner, mais j'aurais peur d'ennuyer l'auditoire en entrant dans ce détail.
Oui, moi j'ai une question. Dans l'introduction de l'œuvre de Darwin de l'origine des espèces à laquelle j'ai pu avoir accès, il était dit qu'on ne peut pas dire que Darwin est le père de cette théorie, mais un certain Spencer.
Non, c'est pas juste. Spencer, en fait, a relu, d'une certaine manière, le darwinisme d'un point de vue philosophique. Donc, Spencer reprend une sorte de lecture du darwinisme en faisant une sorte de théologie, de téléologie, mais non théologique, si on veut. Mais, donc Spencer, c'est pas Spencer qui est à l'origine. Chez Spencer d'ailleurs, on a un transformisme. Mais attention, le propre de Darwin, c'est pas le transformisme. La marque est transformiste. Buffon a été aussi transformiste. Il y a énormément de transformistes à l'époque de Darwin. Le propre de Darwin, c'est transformisme plus variation et sélection naturelle. Hein? Et donc, chez Spencer, il n'y a pas de sélection naturelle. Donc, chez Darwin et chez Wallace, il y a sélection naturelle. Donc, c'est vrai, vous avez tout à fait raison de dire, certains ont dit, il y a une prémisse de la théorie darwinienne chez Spencer. Et même Spencer lui-même fait d'une certaine manière un peu comme s'il connaissait déjà tout ça avant. Mais au point de vue historique et scientifique, c'est Darwin et Wallace qui ont tous les deux pratiquement indépendamment l'idée de la sélection naturelle. C'est la sélection naturelle qui est le propre darwinien. D'accord ? Et alors, beaucoup de lectures, hein, celles de Haeckel, de Spencer, etc., passent d'ailleurs à côté du propre darwinien. Donc ils font une lecture matérialiste, par exemple, de Darwin, mais la sélection naturelle est tout à fait mise entre parenthèses, elle n'est pas là. Donc, de fait, il y a eu un soupçon où Spencer a pu faire comme si. On a dit qu'il y avait déjà quelque chose de darwinien chez lui, mais en réalité, d'ailleurs, il y a un beau livre, j'ai oublié le titre, qui a comparé darwinisme et spencerisme. Et ils ont montré que, de fait, ce n'est pas du tout la même chose. Que beaucoup sont transformistes, et ça ne présentait pratiquement aucun problème, mais c'est sur le mécanisme de l'évolution. Et là, seulement Darwin et Wallace ont la clé.
Oui, je vous remercie beaucoup de votre conférence aussi claire et intéressante. Moi, personnellement, je suis un évolutionniste convaincu. Mais je pense que si on compare les livres de Darwin, tout ce que vous nous avez bien expliqué par rapport à la philosophie classique, Platon, Aristote, je pense que le contenu du livre ne ferait pas du tout problème. Par contre, les titres, oui. Parce que qu'est-ce que c'était l'espèce pour Platon ou Aristote? L'espèce pour Platon et Aristote n'était pas du tout la même chose que l'individu de l'espèce, ni que l'ensemble des individus de l'espèce, mais plus, plutôt la structure logique, l'ensemble des caractères qui font partie de la définition de l'espèce. Donc, et Aristote a une phrase qui me semble très à propos. Vous nous avez montré là une espèce en forme de ballon de foot, c'est-à-dire une sphère. Oui. Hein, voilà. Alors, Aristote dit que produire une sphère de bronze, par exemple, n'est ni produire le bronze, ni produire la sphéricité, mais introduire la sphéricité dans ces bouts de bronze. Mm-hmm. C'est-à-dire que les éléments qui font partie de la définition d'une espèce ont entre eux un rapport qui n'est pas temporel. Par exemple, c'est possible qu'un cheval devienne ensuite rapide. Mais par contre, ce qui n'est pas possible, c'est qu'un être vivant soit d'abord cheval et ensuite après mammifère. Parce que le rapport entre l'idée de cheval et l'idée de mammifère, c'est atemporel. La même chose, le rapport entre l'idée de dinosaure ou reptile. Donc, l'espèce en soi n'est pas une réalité temporelle. Par contre, on peut avoir parler d'une origine temporelle des individus de l'espèce. Ce qui est bien. Une chose, c'est l'origine de l'espèce. Une autre chose, c'est l'origine du premier individu de l'espèce. C'est des choses comme différentes.
Oui, mais on ne peut pas faire non plus de l'espèce quelque chose qui serait une forme purement séparée de la substance comme telle, disons. Donc, je veux dire, je pense, de fait, qu'il y a un problème avec la notion de forme. Hein? Donc, si on voit classiquement, non est motu in genere substantiae. Donc, de fait, on ne peut pas avoir de changement dans les formes substantielles. Donc, mais par contre, beaucoup d'évolutionnistes, le père d'Almas Leroy, Sertillange, dans son beau livre sur l'idée de création et son retentissement en philosophie, admettent une succession de formes. Succession de formes. Alors, c'est évident qu'aujourd'hui, vous avez tout à fait raison de le dire, il y a tout un travail important à faire parce qu'il y a une ambiguïté sur le concept de forme. Par exemple, certains auteurs iraient jusqu'à prétendre que l'évolution se passant dans une certaine plasticité des formes, mais pas au sens philosophique du terme, hein, iraient jusqu'à dire, mais donc la notion de forme est donc de nature, d'une certaine manière, perdrait son sens et on serait dans une sorte de métamorphose de la forme, hein, dans une espèce de plasticité de la nature elle-même, ce qui est évidemment très dangereux. Parce qu'à partir du moment où on entre dans ce genre de conception, alors ça veut dire que la nature est malléable à souhait, et des auteurs français récemment, et réfléchissant sur la plasticité, sont allés jusqu'à dire... Le vivant est justement caractérisé par cette plasticité, cette métamorphose des formes. Donc, sa nature, c'est d'être changé. Donc, allons-y gaiement et manipulons, puisque la nature est comme cela. Donc, de fait, il y a un problème très, très important. Par exemple, vous avez toute une école en France autour, par exemple, de Catherine Malabou et un certain nombre de phénoménologues heideggeriens et certains hegeliens qui essayent de penser... cette espèce de plasticité de la forme, mais où la forme est éclatée. Il n'y a plus de forme. Alors ça, c'est un débat extrêmement important aujourd'hui. Je trouve qu'on ne travaille pas, vous avez tout à fait raison de le dire, on ne travaille pas assez cela. Parce que comment comprendre l'évolution avec cette succession de formes, hein, pour ne pas tomber dans une dissolution de la forme qui conduirait alors à un éclatement de la nature. Et de fait, on voit bien que beaucoup d'évolutionnistes qui font des lectures philosophiques de l'évolution vont dans ce sens-là et donc vont dans une justification de la malléabilité de la forme et donc une justification de la maîtrise totale de l'humain sur l'humain. Et c'est quelque chose qui est une des conséquences justement de la vulnérabilité de l'humain. Là, on pourrait dire l'homme est vulnérable, mais quand quelque chose est vulnérable, qu'est-ce que je peux faire avec cette vulnérabilité? Ou bien je la respecte et je laisse être le fragile dans sa condition, ou bien je mets la main sur le fragile et je la servis à mes rêves de toute puissance et de toute maîtrise. Donc votre question m'intéresse beaucoup, mais je trouve que c'est une question qui devrait faire l'objet d'un travail approfondi. Peut-être que c'est à Philanthropos ou à Fribourg qu'on doit faire ce genre de travail fondamental, Parce que dans, malheureusement, dans bon nombre de nos universités, ou dans les universités que je fréquente, quand je soulève cela, l'autre jour, je vois un collègue qui m'a dit, mais vous en êtes encore à cette notion de forme, vous voyez ? Je dis, mais oui. Donc ça vaudrait la peine, tout en gardant une parfaite honnêteté par rapport au contenu scientifique. Parce que moi, je crois que nous devons, tout l'enseignement de l'Église va dans ce sens-là, nous devons respecter minutieusement la vérité. « Nulla unquam inter fidem et rationem, vera dissensio est se potest », disait le Vatican I. Donc c'est vrai, il nous faut maintenir ça. Non, mais c'était en plus la devise de la Société scientifique de Bruxelles qui organisait la conférence qu'il y a 100 ans se passait ici à Fribourg. Les congrès internationaux de scientifiques catholiques avaient cette devise. Je trouve que nous avons à respecter minutieusement le contenu scientifique. Mais quand on commence à parler de la malléabilité de la forme, on n'est plus en science. On est déjà dans une lecture qui est à un autre niveau. Et là, je pense que c'est crucial. C'est crucial parce que la question de la nature est quand même est une des questions les plus importantes aujourd'hui.
J'aurais une question. Oui, s'il vous plaît, merci. J'aurais voulu savoir si Darwin considère l'homme comme le sommet de la chaîne des espèces, et si oui, pourquoi ? Est-ce que Darwin a dit quelque chose dessus ?
C'est-à-dire que certainement Darwin considère l'homme comme un niveau très haut de complexité, pourrait-on dire, avec des mots qui ne l'emploient pas, parce que c'est des mots un peu anachroniques. Mais donc, en fait, Darwin ne se pose pas la question en ces termes-là, parce que justement, il reste en naturaliste. Quand on parle du sommet, il faut vraiment préciser ce qu'est ce sommet. Par exemple, il est clair que longtemps on a vu le sommet comme en termes d'une position centrale et du fait que l'homme était le sommet d'une pyramide de phénomènes. Mais aujourd'hui, on pourrait dire l'homme est de fait... Darwin ne se pose pas ce problème-là, mais on pourrait aujourd'hui dire l'homme est de fait un sommet de complexité. Il n'y a aucun autre animal qui a ce degré de complexité. La preuve, c'est que s'il y en avait un, il aurait colonisé toutes les niches possibles sur la Terre comme nous. Donc nous sommes la seule espèce qui a fait ça. Donc nous sommes un sommet de complexité, mais d'une certaine manière, nous sommes devenus un sommet de complexité par un processus dans lequel il y a du jeu. C'est-à-dire, pas dans un processus d'attracteur, comme si on était dans un entonnoir qui va vers le futur. Pour cela, il faut se rappeler les belles pages de Bergson, quand il dit « il faut se méfier d'un finalisme qui ne serait qu'un mécanisme à l'envers ». Parce qu'alors, le finalisme ne serait qu'une sorte d'attracteur, mais donc de la mécanique vers le futur, si vous voulez. Alors ça ce n'est pas la bonne conception d'un sommet de complexité. On pourrait dire que nous développons et nous devenons ce sommet de complexité dans une perspective dans laquelle il y a beaucoup plus de degrés de liberté. Il y a à côté de nous des tas de filas qui ont été arrêtés, des évolutions qui ont été régressives, parce qu'il y a des exemples d'évolutions qui ne vont pas vers la complexification mais vers la simplification, etc. Nous sommes dans une arborescence qui est le signe d'une grande autonomie. Et ça n'enlève rien à notre grandeur, parce que c'est parmi cet arbre dans lequel il y a du jeu, il y a de la liberté, il y a de l'autonomie, fleurit une branche sur laquelle il y a une fleur unique et extrêmement complexe. Alors, évidemment, cette lecture est déjà une lecture de type, on pourrait dire, un peu philosophie de la nature, parce que j'envisage alors les différentes branches comme le signe d'une autonomie à l'intérieur de la création, etc. Mais Darwin, pour répondre à votre question, Darwin ne prend pas le problème sous cet angle. Darwin est un naturaliste, il met tous les éléments, tous les phénomènes devant lui, il essaye de les organiser, mais il n'en tire aucune perspective de type philosophique ou théologique. Donc c'est un bon... ça reste, moi, je trouve, un point central, parce que bon nombre de collègues, mes collègues biologistes, disent, puisque nous sommes simplement sur un phylum local, eh bien, nous sommes simplement une sorte d'épiphénomène, nous perdons en grandeur, parce qu'à côté de nous, il y a des espèces, par exemple, dans lesquelles le mâle est devenu microscopique, dû à l'évolution, alors que la femelle est restée macroscopique. Il y a donc des phénomènes d'évolution régressive. Et donc, vous voyez, nous sommes une petite branche parmi d'autres, et donc nous sommes insignifiants. Mais ce n'est pas vrai du tout. Au contraire, devenir aussi complexe dans un contexte avec un tel degré de liberté et d'autonomie, ça valorise la complexité. Si nous étions simplement une espèce d'automate obligé de devenir complexe par un plan dans lequel il n'y a aucune marge de manœuvre, ce serait peut-être déchoir. Enfin, je pose la question avec prudence, mais voilà.
Ça nous ramène à la question de la finalité. Je reprends l'image que vous avez, la belle image de l'esprit planant sur les eaux. Et vous avez parlé de la liberté à la création, mais la liberté au sens strict, ça s'applique à l'homme dans la création. Donc, l'homme, bien sûr, fait partie de la création de la nature. Donc, il y a toute la question qui rejoint celle de la forme aussi, qui n'est pas simplement forme, mais qui est aussi une fin par rapport à la matière.
Bien sûr.
C'est peut-être ça la clé, la clé qui est à creuser. Donc, ce qui paraît, peut-être que vous pourriez développer un peu plus, c'est, j'allais dire ça autrement, hasard et nécessité. C'est-à-dire, entre l'esprit qui plane et la matière, et puis ça rejoint peut-être aussi la notion de matière première chez Aristote, est-ce que vous pourriez un peu développer cela? Parce que l'image de l'esprit qui plane simplement, on pourrait aussi dire, bon, après tout, n'importe quoi peut se produire par rapport à cette matière.
Oui.
Et dans l'évolution, dans la succession des formes, et a fortiori s'agissant de l'homme, la question de la fidélité ne peut pas être éludée.
Non, bien sûr.
Je ne dis pas que vous l'éludez, bien sûr, mais c'est pour que...
Vous avez raison. Comment comprendre l'idée d'un dessein intelligent, un projet de Dieu sur sa création, tout en préservant, l'autonomie, pour effectivement, la liberté n'est pas un bon terme, mais je voulais dire quelque chose dans lequel il y a du jeu possible, etc. Bon. Ce qui est clair, c'est que c'est aussi une représentation du mode de relation, de présence de Dieu à sa création. Hein? Donc, en fait, on pourrait dire il y a de la nécessité et il y a de la contingence. Hein, je pense que, si je me souviens bien, dans la Summa Contra Gentiles, je crois que c'est au livre 3, je pense à la question 70, je crois vers la question 70, il y a toute une discussion sur la question de la contingence et de la nécessité dans la création. Et donc, il y a de la contingence, il y a de la nécessité. Hein, tout n'est pas nécessaire dans la création. Alors ça, c'est quelque chose... qui est tout à fait homogène avec la perspective qu'on a dans une représentation de philosophie de la nature issue de l'évolution. Maintenant, quel est le mode Dieu gouverne le monde, il ne le commande pas. Dieu crée, mais il ne le fabrique pas, le monde. Hein. Il y a quelque chose quand même, l'idée que Dieu ne fait pas le monde, mais laisse le monde aussi se faire. Donc, il y a l'idée d'une... De toute façon, la création est ad extra, quand même. Il y a une marge de manœuvre, mais Dieu appelle. Donc, dans ce sens-là, les formes sont des fins. Dieu appelle la création à une réalisation de quelque chose. Il ne laisse pas le monde purement à l'extérieur. Mais je crois que nos représentations sont un peu piégées par une représentation du mode de relation entre Dieu et le monde sous la forme, par exemple, d'une intervention ou d'un quelque chose. Bon, moi j'aime bien l'idée qui est celle de Thomas d'Aquin quand il dit faut-il dire que les phénomènes sont de Dieu ou bien de la nature, et saint Thomas dit tout est de Dieu et tout est de la nature, mais sous des modes différents. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très beau. Sous un certain point de vue, tout est de la nature. Je crois que l'exemple qu'il donne, ce n'est pas l'instrument ou la flûte. Est-ce que la musique, est-ce qu'elle vient de la flûte ou est-ce qu'elle vient du musicien? Tout vient du musicien, tout vient de la flûte, mais sous des modes différents. Donc, à un certain niveau, il y a du jeu, il y a apparemment des choses qui ne sont pas fixées, etc. Mais tout vient de Dieu, parce que c'est Dieu qui pose dans l'être et permet que les choses se fassent comme cela. Donc, il y a bien une finalité profonde. Mais cette finalité n'est pas à voir... Comme une sorte de... soit d'un attracteur, soit d'une sorte de projet qui serait comme une intervention d'un ingénieur dans le mécano. La création est quand même une certaine relation. Relatio quaedam, non? Donc il faut quand même... c'est une question plus de théologien. Ici moi, je dois avouer mon incompétence totale en théologie, mais...
Il y avait la notion d'appétit dans la matière qui peut-être était intéressante dans ce point de vue-là, et de désir.
Oui, il y a certainement dans la nature, tout agent agit en vue d'une fin. Il y a quelque chose dans la matière qui est posé par Dieu, par le Créateur, et qui pousse à cela. Donc dire que le monde n'aurait pas été fait pour l'homme serait pour moi quelque chose que je n'admets pas. Il y a dans le monde de quoi voir l'émergence de l'homme. Il y a effectivement comme quelque chose qui travaille la nature et qui conduit à ça. Mais attention, moi je dirais, il faut affiner nos représentations, parce que très vite, on les transforme en des représentations d'ingénieurs, d'informaticiens, de grands programmateurs, etc., d'horlogers. Et ça, ce n'est pas compatible, à mon avis, avec la représentation de la création comme relation. Je préfère, moi, à titre personnel, le voir comme... je ne sais pas moi, les parents ont un projet sur leurs enfants, enfin je veux dire, ils veulent des choses, mais les parents ne peuvent pas être à tout moment derrière leurs enfants. Ils appellent, ils proposent, ils suscitent, ils permettent le déploiement de possibles. Est-ce qu'il n'y a pas dans la relation de création quelque chose qui est plus proche d'une relation paternelle ou maternelle que du rapport entre l'ingénieur et son mécano? Mais je ne peux pas l'exprimer mieux, parce que malheureusement, je ne suis qu'un petit scientifique qui a lu quelques histoires en philosophie.